Bonjour à toutes et à tous. Nous voici arrivés à la dernière étape de notre parcours de cette année. Le thème de la norme religieuse et des questions, et les questions d'autorité sont loin d'être épuisées et nous poursuivrons l'enquête l'année prochaine, d'où le titre de la leçon d'aujourd'hui, réflexion provisoirement conclusive. J'aurai notamment le plaisir l'année prochaine d'accueillir dans le cadre du séminaire associé au cours les intervenants que la situation sanitaire a empêchés de venir à Paris cette année, et évidemment, je m'en réjouis beaucoup. Dans la série de leçons qui s'achève aujourd'hui, j'ai poursuivi deux objectifs immédiats, en m'appuyant sur le lexique et l'étude sémantique qui en émane. Le premier objectif fut de comprendre les implications de l'adjectif, les implications de l'usage plutôt, de l'adjectif hieros et d'identifier d'éventuelles accointances avec le registre de l'autorité. Le second objectif fut d'entamer l'analyse du vocabulaire de la norme, à la fois en tant qu'usage, coutume, règle et loi. Ces deux objectifs immédiats étaient chevillés à une interrogation plus large qui explique que je me sois jusqu'ici essentiellement penchée sur des témoignages de la période archaïque ou du tout début de l'époque classique. En effet, ce questionnement d'arrière-plan est lié à la réflexion sur l'émergence de la polis, de la cité, et la place réservée aux dieux dans ce processus, moins à ce stade en fonction de l'inscription de leur culte dans l'espace civique ou à ses limites, une réflexion dont les travaux de François de Polignac ont montré la fécondité, qu'en tant que fondement normatif possible des comportements et de l'autorité à l'œuvre dans les petites communautés que sont les poleis en voie d'élaboration. Cette démarche doit permettre d'interroger la cité comme lieu d'affirmation d'un ordre humain en regard d'un ordre divin prétendument antérieur, selon un processus dont on a vu au début de notre parcours qu'il était parfois conçu par les modernes comme une forme de laïcisation. Il s'agissait, dans le cadre présent en quelque sorte, de déployer en la nuançant la question incidemment posée par Christian Mayer dans un article de 1986 que j'ai cité d'entrée de jeu. Et j'ai mis en évidence la phrase à laquelle je m'étais plus particulièrement arrêtée, il faudrait se demander si la relation entre la religion et les Lumières chez les Grecs n'est pas fondamentalement différente de celle qui existe dans l'Europe chrétienne moderne. Fin de citation. Un tel questionnement ne se referme pas aujourd'hui, loin s'en faut, mais je veux vous proposer quelques réflexions conclusives intermédiaires, des conclusions d'étape, en quelque sorte, en renouant certains des fils que nous avons dévidés jusqu'ici. Un premier constat s'impose à la lecture d'Homère et d'Hésiode. Ceux qui exercent le pouvoir ne sont pas qualifiés de hieros, ni les attributs qui les associent à cet exercice, et nous devons prendre acte de cette absence. Un passage que nous avons lu à deux reprises pourrait toutefois conduire à nuancer ce constat. Il s'agit d'une partie du prologue de la Théogonie d'Hésiode que je vous remets sous les yeux en cette fin de parcours. Je relis le texte avec vous. Donc nous sommes au vers 81 à 93 de la Théogonie. Je lis ce passage dans la traduction d'Annie Bonafé. « Celui qui que tienne en honneur les filles du grand Zeus, donc les muses, sur qui dès sa naissance se pose le regard parmi les rois nourrissons de Zeus, celui-là, elle lui verse sur la langue une rosée suave, celui-là, les mots lui coulent de la bouche propre à apaiser, et ces gens ont tous les yeux sur lui quand il tranche en matière d'arrêt coutumier par l'effet de sa droite justice. » Vous vous souvenez de l'expression « diakrinanta temistas iteiesi dikesin ». Celui-là, sans le moindre faux pas, quand il parle sur l'agora, sur la place, sur l'agora, a vite fait de mettre un terme à la querelle même grande, il sait s'y prendre. Car s'il y a des rois pleins de sagesse, c'est bien afin que pour les gens à qui l'on cherche à nuire sur l'agora, ils fassent à terme se retourner ses actes contre leurs auteurs, et cela sans peine, en se gagnant les cœurs par des mots sans rudesse. Et quand il s'avance à travers la foule assemblée, c'est comme un dieu qu'on cherche à se le concilier par un respect bien propre à apaiser, et on le voit de loin dans les réunions publiques. Tel est le don sacré, c'est ça qui m'intéresse ici, donc, donc pour que les muses dispensent aux humains. Fin de citation. C'est le don qui est hieros et non la personne qui le reçoit. En outre, vous remarquerez que dans le dernier vers du passage, le vers 93, ce sont les humains au sens large auxquels cette dosis, cette dation est allouée. Le vers en question, me semble-t-il, ne souffre aucune ambiguïté à cet égard. Le don des muses, bon, alors on a traduit ici par le don sacré, mais je vous renvoie aussi, je vous rappelle la traduction, une des traductions possibles que j'avais données de Hieros, ce don des muses est divinement puissant. Divinement puissant parce qu'il vient des muses, bien sûr, mais pas seulement. Il l'est aussi dans la mesure où il favorise le doux apaisement dans la communauté qu'il protège contre le neikos, le conflit, même grand, dit le poète. Et l'on pense alors immanquablement à la stasis, le conflit interne, même si le mot n'est pas encore présent dans la poésie hexamétrique. On pense immanquablement à la stasis, le conflit interne, la guerre civile, dont le mot surgit dans la poésie lyrique, avec Alcée, Théognis, des passages que nous n'avons pas vus, mais comme nous l'avons vu aussi dans les élégies de Solon. Ces vers de la Théogonie ne me paraissent pas contredire le constat initial selon lequel le pouvoir n'est pas hieros comme tel, ni celui qui l'exerce. En revanche, ce qui contribue à la protection de la collectivité est susceptible d'être ainsi qualifié, de même que ce qui atteste la puissance divine, jusqu'au plus modeste parmi les anathémata des sanctuaires. C'est dans cette perspective que j'ai compris, vous vous en souviendrez, la qualité de hiera qui est attribuée à une polis comme telle, en tant qu'espace où la protection d'une communauté est idéalement assurée et où l'interaction entre les humains et les dieux est particulièrement favorable à ces deux types d'agents de la vie sociale, que je mets ensemble dans la vie sociale. Revenons à hieros dans ses différents emplois. L'adjectif désigne tout ce qui manifeste ou est susceptible de manifester avec plus ou moins d'intensité, selon les cas, la puissance d'action des dieux. C'est ce qu'expriment les usages du terme dans les vers des poètes où se matérialise le monde divin. Hein, souvenez-vous, on a fait cette analyse de les dieux entre eux. Comment le terme hieros est-il utilisé quand les dieux sont entre eux ? L'entre-soi divin de l'Iliade, évoquant l'Olympe ou le processus théogonique chez Hésiode, ne dissuade pas les poètes de recourir à l'épithète pour traduire cette puissance dont on a identifié dans ce cadre-là les connotations vitalistes. C'est le cas également dans le monde des hommes, où l'action divine se traduit par la qualité de hieros qui s'applique au moins potentiellement au résultat de cette action. Il en ressort une protection spécifique, que souligne aussi l'adjectif, et qui fonctionne de façon réciproque entre les dieux et les hommes. Les hommes doivent veiller au sanctuaire, aux différents biens des dieux, à l'accomplissement des rituels, pour que ne soit pas mis à mal ce qui relève de l'hommage à leur rendre. Mais la qualité de hieros signifie aussi la protection des dieux sur ceux qu'ils sont censés honorer à leur tour. Car il y a bien deux directions dans la puissance divine que permet de circonscrire l'adjectif hieros. Et un bref parallèle, avec la notion de timé, dont je vous ai souvent dit déjà qu'elle était fondamentale, permet d'étayer ce constat et se trouve induit par le passage de la théogonie que nous venons de relire. Car la hieré dosis du vers 93 correspond, enfin à cette hieré dosis plutôt, correspond le verbe timao, dans sa forme timé souci, au vers 81. Si les hommes honorent les dieux, l'inverse n'est pas moins vrai. Les biens que les dieux réservent aux humains sont conçus comme une timé divine, un bénéfice protecteur. À la fois honneur et prospérité, comme l'écrivait Louis Gernet, qui a bien circonscrit cette double direction de la notion. Il ajoutait en outre, je le cite, « Ce qui en souligne la signification générale, c'est que l'efficace de cette timée est parfois associée à la continuité même de la vie du groupe. » Je pense que c'est une notation fondamentale. C'est une telle réciprocité entre hommes et dieux qu'esquisse la conception d'une polis hiera, la cité que les poèmes d'Homère et d'Hésiode dessinent par touches successives. Cette vie en cité, les poètes l'insèrent dans un filet régulateur. Je reprends l'expression que j'ai utilisée précédemment. Filet régulateur exprimé par le champ sémantique de la thémis, entendu comme une exigence d'équilibre susceptible de s'appliquer à tous les domaines du cosmos et de l'existence des dieux comme des hommes. Ressentie par l'homme comme une puissance qui s'impose à lui, elle commande à toutes sortes de comportements que la tradition a conduit à intérioriser, mais elle préside aussi au règlement de conflits qu'une telle intériorisation ne suffit pas à affronter et qui menace l'équilibre social. Dans les poèmes archaïques, le cadre normatif régi par cette exigence d'équilibre, le filet régulateur plutôt, est de l'ordre du droit coutumier qui repose sur la mémoire et l'oralité. Tant la poésie homérique qu'hésiodique associe à cette mémoire du groupe des figures d'autorité que légitime l'expérience de l'âge. Et je vous rappelle la magnifique figure de Néret dans la Théogonie, le vieux de la mer, Apsodès et Alétès, celui qui n'oublie pas et qui ne dit pas des mensonges, mais qui ne tord pas ce qui doit être droit. La légitimité donc, qui peut s'ancrer dans l'expérience de l'âge peut aussi s'ancrer dans une timée royale. Le sceptre et les thémistès ont été remis à Agamemnon par Zeus. « Pour qu'il dispense ses conseils », affirme le vieux Nestor au chant neuf de l'Iliade. « Parce que tu es le maître de beaucoup de peuples et qu'entre tes mains Zeus a remis le sceptre ainsi que les thémistès, afin que tu leur dispenses tes conseils. » Boulesta, à la fin du vers, 99. Mais c'est au pluriel que se dessinent d'emblée ces figures d'autorité. C'est quelque chose qui est très frappant dans tout ce que nous avons vu ensemble. Que ce soit dans les scènes homériques de la prise de décision parmi les Achéens ou dans celle de la résolution du conflit sur le bouclier d'Achille. Même si le sceptre fabriqué pour Zeus par Héphaïstos est passé dans la famille des Atrides, est associé au plus roi des rois qu'est Agamemnon, Nestor le dit ici encore une fois, il circule dans le groupe des Achéens au conseil. Ainsi, au premier chant de l'Iliade, quand se cristallise l'opposition entre Achille et Agamemnon, et que le premier prononce le serment de ne pas retourner au combat en prenant le sceptre à témoin avant de le jeter par terre. C'est une scène extrêmement forte du chant 1. Et une partie de la description que le héros en colère donne de l'objet, qu'il tient, montre la complexité du rapport que les Achéens entretiennent avec lui. Je vous mets le passage, parce que nous ne l'avons pas encore vu. Le passage sous les yeux, c'est à propos du sceptre, attribut d'autorité s'il en est. Et donc il jure, Achille en colère jure qu'il ne remontera pas sur le champ de bataille puisqu'on l'a privé de sa timée et de son guéras. « Je le fais, dit-il. » Pardon, il faut un S et pas un T après fait, au bout de fait. « Je le fais au nom de ce sceptre. Aujourd'hui, il est dans les mains des fils des Achéens, gardiens des Dicailles, qui, au nom de Zeus, protège les thémistès. » Donc, on retrouve tout le vocabulaire que nous avons vu jusqu'ici. Le sceptre circule au conseil des Achéens et on l'a également vu circuler au sein du hieros kuklos, des anciens du bouclier d'Achille. Les gérontes de ce passage du chant 18 s'appuient sur le sceptre au moment de prononcer leur sentence, ce qui pourrait d'ailleurs visuellement fonder l'ancrage de leurs propos dans la thémis. Une telle circulation est remarquable et dissuade de construire un modèle de pouvoir sacré aux mains d'un seul, même dans cette société quelque peu hors sol qu'est l'armée achéenne. Dans l'Iliade, l'autorité est distribuée au sein du conseil, entre les différents rois ou les anciens du bouclier, même si Agamemnon est explicitement dit le plus roi de tous. et que cette hiérarchie sera rappelée à Achille par le vieux Nestor. Il faut respecter les hiérarchies, mais on voit bien qu'il y a une distribution. Quant au basileis d'Hésiode, auquel je reviens, on a relu il y a un instant ce passage du prologue de la Théogonie, ils sont sans doute moins hors sol que ceux de l'Iliade, et le poète décrit toutes les potentialités de leur sentence. Ici, évidemment, dans le passage que vous avez sous les yeux, ce sont des sentences positives, parce que ce roi-là est inspiré par une hiérée d'Ossis, des muses. Donc, il décrit toutes les potentialités de leur sentence, des dicailles les plus droites aux plus retorses, parce qu'il peut y avoir aussi des dicailles retorses, nous l'avons vu, mais la pluralité de ces figures dans l'œuvre d'Hésiode donne l'image d'un émiettement de l'autorité qui la rend aussi fluide que dans les scènes d'assemblée de l'Iliade. À cette fluidité contribue également le caractère potentiellement agonistique, cette émulation de la parole d'autorité au sein d'une arène de discours. Et c'est un autre point qu'il me semble important de souligner à ce stade. Le chant neuf de l'Iliade, on a vu tout à l'heure ce passage du chant neuf où Nestor dit à Agamemnon « Tu es le maître de beaucoup de peuples », etc. Et donc, au chant neuf, le chant neuf est assurément un bel exemple d'une telle arène de discours. J'en rappelle le contexte. Les Achéens, à ce stade, sont au plus mal face aux avancées des Troyens. Agamemnon, qui a reconnu sa faute à l'égard d'Achille, fait l'hypothèse d'un retrait de l'armée et d'un retour en Grèce. Mais d'autres rois y sont fermement opposés. On est qu'au chant neuf, il y en a 24, donc il est clair que ça ne peut pas s'arrêter. C'est une telle opposition que manifeste Diomède en prenant la parole au conseil. Et voici le début de son discours. Je lis avec vous la traduction de Lasser qui est à l'écran. « Atride, c'est toi d'abord que je combattrai, insensé. Il est Thémis de le faire, roi à l'assemblée. » Et on retrouve l'expression que nous avons vue passer précédemment, « Thémis estin, anax, agoré. » Et Thémis estin, c'est l'expression que nous avons vue. Donc, il est Thémis d'engager cet agone de discours quand on est sur l'agora. On voit bien que on est exactement dans le même contexte de prise de parole agonistique que dans le Hieroskuklos du chant 18. « Ne t'en irrite donc pas. À ma vaillance d'abord, tu as fait injure devant les Danaïens. Tu me disais sans mordant et sans vaillance. Là-dessus, les Argiens sont renseignés, jeunes et vieux. » Donc, ils savent que je suis vaillant, c'est ça que Diomède veut dire. « Pour toi, le fils de Cronos à l'esprit retors, donc Zeus, divisa ses dons. Par le sceptre, il t'a donné d'être honoré plus que tous. Mais la vaillance, il ne te l'a pas donné, et c'est la plus grande force. » Fin de citation. Et il va poursuivre en affirmant que le roi peut bien rentrer à Mycène si lui en a envie, mais que d'autres poursuivront le siège de Troie et la feront tomber. L'assemblée l'approuve, et Nestor prend alors la parole, en soulignant d'abord que Diomède a bien parlé, mais qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'il eût fallu dire. Le roi de Pylos va endosser, il le dit, je vais vous montrer le passage tout de suite, mais il endosse son rôle d'ancien. Alors j'ai envie de dire, un peu par boutade, ce n'est pas le vieux de la mer en l'occurrence, mais c'est le vieux de l'armée, face à un Diomède qui pourrait être son fils. Et ce qu'il entend combattre en fait en prenant la parole, c'est la division des Achéens, la guerre intestine. Et celui qui mène à ce type de désastre, dans le poème, donc dans ce chant neuf, au vers 57-64, on voit qu'il est assorti de qualificatifs évocateurs. Je lis cette prise de parole de Nestor avec vous. Donc, il parle à Diomède. « Tu pourrais être pour moi un fils, en âge de porter les armes, mais tu dis des choses sensées au roi des Argiens, car tu parles selon ce qui convient. » Et là, on a un autre registre sémantique que je n'ai pas pris le temps d'analyser avec vous, mais donc vous allez tout de suite comprendre la portée, c'est le katamoiran. Or, souvenez-vous, parmi les filles de Thémis, il y a les horai, avec Dike, Eunomia et Irénée, et il y a les moirai, les pars. Et donc on voit bien ici qu'on est exactement dans le même registre de la convenance, mais vu sous un autre angle. Eh bien, moi qui me vante d'être plus vieux que toi, je parlerai, j'exposerai tout, et personne ne méprisera mon avis, pas même le puissant Agamemnon. Il est sans famille, sans Thémis, sans foyer, celui qui aime la guerre intestine, propre à glacer des froids. Et vous voyez les adjectifs aphrétor, athémistos, anestios estin, et puis vous avez cette mention du polémos epidémios. C'est vraiment la guerre intestine au sens strict. Nestor exhorte donc Agamemnon, après cette prise de parole, il exhorte Agamemnon à prendre conseil auprès des anciens parmi les Achéens. On trouve une espèce de conseil des Gérontes parmi les Achéens, ce qu'il fait, et une ambassade est envoyée à Achille, c'est la fameuse ambassade qui ne réussira pas à le convaincre. Et comme le remarque avec justesse David Bouvier dans son bel ouvrage « Le sceptre et la lyre » dont je vous ai mentionné la référence précédemment, quand il analyse ce passage, il écrit, je le cite, « Les trois adjectifs renvoient à l'appartenance et à l'intégration de la personne dans la société. La thémis est alors comme le foyer de la société, son centre, la raison de son rassemblement. » Fin de citation. Il traduit athémistos ici par l'expression « sans conscience sociale », ce qui est une traduction intéressante. Le monde des dieux et le monde des héros de la poésie, mais aussi celui des poleis auxquels Homère et Hésiode réservent une place, sont des espaces de régulation. Une régulation infusée par l'exigence d'équilibre que traduit la Thémis et qui englobe la totalité du cosmos. Dans le monde des dieux, l'exigence d'équilibre est associée à la juste répartition des timailles et à la reconnaissance de la part de chacun, sa moira, on vient de voir l'expression au katamoiran. C'est notamment un très beau passage de la Théogonie qu'on a vu précédemment, où on voit vraiment cette récurrence du vocabulaire de la timé, du géras, et la conclusion que c'est thémis d'agir ainsi. Dans le monde des hommes, les conseils et les sentences des figures d'autorité que sont les rois et les anciens sont susceptibles de concrétiser une telle exigence. Il n'est pas anachronique de parler alors d'une aspiration à la justice, au sens global de la reconnaissance et du respect des droits de chacun, à condition d'associer les droits, dans l'expression que j'utilise, la reconnaissance et le respect des droits de chacun, condition d'associer les droits, non à notre perception moderne de la notion, mais à ce que le grec exprime par les timai et les gera. Remarquons toutefois que la conscience sociale dont témoigne ce qui est thémis, je reprends l'expression de David Bouvier, ne se limite pas à la seule arène politique et judiciaire. Elle s'étend à l'ensemble des manières d'être et de faire, je reprends l'expression que vous connaissez bien maintenant, l'ensemble des manières d'être et de faire intégrées dans une culture donnée. Quand l'Odyssée évoque les dieux dissimulés sous des apparences multiples pour identifier parmi les hommes l'Ubris et l'Eunomia, c'est un passage du chant 23 de l'Odyssée que nous avons vu précédemment, ces deux types de comportements antithétiques englobent potentiellement tous les types d'actions individuelles et collectives. Or, dans la poésie d'Hésiode, nous l'avons vu, ces manières d'être et de faire étaient susceptibles d'être désignées par le terme « nomos », qui, comme eunomia, s'inscrit dans le registre de la répartition selon la convenance. Je fais référence ici à l'analyse de Pierre Chantraine dans son dictionnaire étymologique. Notre témoignage atteste en outre la portée proprement légal du terme, en tant que fruit de la délibération d'une instance collective à partir du 5e siècle avant notre ère. On l'a vu dans une série de documents épigraphiques la semaine dernière. Mais sans que soit pour autant oblitéré dans les emplois du mot le sens d'usage, de coutume sanctionné par une tradition partagée. C'est ce que j'appelais la semaine dernière le double entendre de nomos entre oralité et écriture, entre tradition fluide et formalisation. au thémistès poétique comme précepte régulateur inspiré par les dieux, ont succédé, on l'a vu dans le domaine oraculaire, les notions de chresmos et de manteion, et dans le domaine politique, celles de nomos et de thesmos, dans un cadre chronologique et une perspective sémantique auquel je voudrais revenir en conclusion de cette dernière leçon. Puisque, nous l'avons vu aussi, les thémistos sont restés cantonnés au corpus poétique. J'ai évoqué la semaine dernière le sens que l'on peut percevoir derrière l'usage de thesmos, alors sous ses différentes formes, hein, on l'a vu, thetmos, avec un theta, l'initial ou un tau. Donc le sens que l'on peut percevoir de ces usages dans l'épigraphie des cités des différentes régions du monde grec, enfin deux différentes régions, puisque le mot n'est pas nécessairement attesté partout dans ce sens. D'autres communautés ont fait d'autres choix. L'usage du terme, donc, qui est attesté à partir de l'extrême fin du VIe siècle, reste circonstanciel, mais il s'inscrit presque à chaque fois, dans les documents que nous avons vus la semaine dernière, sur un arrière-plan plus large de nomoi, de nomia, hein, disait la loi de colonisation de nos pactes. Derrière nomia, on a ce que d'autres textes appellent des nomima, qui forment pour la communauté qui les invoque explicitement un filet régulateur, selon l'image que j'ai donnée de la Thémis dans une leçon antérieure. Et donc on voit bien que de ce point de vue, le champ sémantique de nomos rentre, hein, il y a des recouvrements qui s'opèrent. Le thesmos fait référence à l'institution, à la fondation des dispositions prises, et me semble-t-il aussi, pour ce qui est des inscriptions en tout cas, à sa traduction concrète dans l'écriture. C'est dans ce sens que je comprends le choix de désigner les dites lois de Dracon et de Solon sous ce terme de thesmoi, par contraste avec les modalités d'être et de faire traditionnelles. Peut-être ces dernières étaient-elles déjà des nomoi à Athènes, à l'instar de ce que l'on voit chez Hésiode. Mais malheureusement, aucun autre texte athénien de l'époque de Solon que ses propres poèmes ne nous est parvenu. Ce qui nous empêche évidemment d'aller plus avant dans le contraste. En revanche, toujours à Athènes, nous disposons du magnifique corpus des tragédies. Certes, il nous projette au minimum un siècle et demi en avant dans le temps. On se retrouve avec les premières tragédies d'Eschyle un peu avant le milieu du 5e siècle. Néanmoins, en cette dernière leçon, je voudrais convoquer les Euménides d'Eschyle, tragédie de la norme s'il en est. L'Orestie, dont les Euménides forment le troisième volet, fut représentée sur la scène du théâtre de Dionysos en 458 avant notre ère, 4 ans après la réforme de l'aréopage, dont nombre de prérogatives ont été alors transférées au Conseil des 500, et après l'assassinat d'Éphialte, la pièce est jouée après l'assassinat d'Éphialte, qui avait porté la dite réforme de l'aréopage. Le cœur de l'intrigue tragique, vous le savez, je la rappelle, est l'enchaînement des meurtres qui ensanglantent le palais de Mycène au retour du roi Agamemnon, après la chute de Troie. Mis à mort par Clytemnestre, son épouse et l'amant de celle-ci, Égiste, le roi est vengé par son fils, Oreste, qui tue les deux assassins et s'enfuit en exil. Et il est poursuivi harcelé par les Érinies, qui veulent voir puni le matricide. Purifié par Apollon du meurtre de sa mère, mais sans que les Érinies ne s'apaisent pour autant, Oreste arrive à Athènes, sur les conseils d'Apollon, afin de solliciter l'arbitrage d'Athéna, qui, après débat, met au vote le verdict de culpabilité du jeune Argien. Le jeton de la déesse, le jeton de la déesse fait pencher la balance en faveur de la relaxe, et les Érinies sont évidemment furieuses d'être ainsi privées de leur part d'honneur qui leur est allouée de toute éternité. Et on retrouve de façon lancinante, on va le voir, le vocabulaire de la Timée et de la Moira. Athéna leur offre alors une place de choix et des honneurs dans sa cité, ce que les anciennes déesses acceptent, en relâchant la menace de famine et de stasis, de guerre civile, qu'elle faisait peser sur Athènes. Donc voilà le contexte de l'intrigue qui est bien connu, mais que je voulais replacer, que je voulais remettre en place. Les entrelacs de Thesmos et de Nomos dans cette tragédie, hein, je reprends le titre de mes deux leçons précédentes, les entrelacs de Thesmos et de Nomos, sont pleins d'enseignements pour mon propos conclusif de ce jour. En effet, la première occurrence de Nomos, on va entrer dans la tragédie, dans le cœur même de la tragédie, la première occurrence de Nomos intervient presque à l'entame de la pièce. Quand le cœur des Erinies est endormi dans le sanctuaire delphique, hein, ils sont Oreste et à sa suite, le cœur des Erinies est arrivé à Delphes, Oreste a été purifié, les Erinies se sont endormies, et le cœur est réveillé par l'ombre de Clytemnestre qui les secoue, et le cœur voit sa proie lui échapper puisqu'Oreste part pour Athènes poussé par Apollon. Celles qui se nomment elles-mêmes les vieilles puissances, mais vieilles au sens de graiae, c'est-à-dire les vieilles femmes, vieille puissance attaque Apollon, le dieu jeune, Néos. Et on voit qu'il y a cette opposition dans toute la pièce entre les anciens dieux et les jeunes dieux. Et elles attaquent donc Apollon en disant, je cite les vers 169-172, « Au foyer, tout devin qu'il est, la souillure l'a touché, et le recoin, donc le coin du sanctuaire, l'aduton, il la salit de son propre élan, à son propre appel. Passant le nomos des dieux, hein, vous voyez ici, paranomon théon, passant le nomos des dieux, passant outre, en fait, le nomos des dieux, il vénère les choses humaines, et nos parts d'antiques venues, il les a anéanties. » Et j'ai repris la très belle traduction de Louis Bardelin et Bernard de Forge qui ont retraduit le corpus des tragédies, enfin, en tout cas, cette trilogie dans la collection bouquins que je vous recommande. On retrouve donc ici l'arrière-plan qui nous est désormais familier, celui de la répartition des timaï, des honneurs et des parts, ici les moirai auxquels Zeus a procédé, hein, ce qui est traduit ici par nos parts d'antiques venues, palai geneis moiras, hein, il les a anéantis, ayant anéanti les parts d'antiques venues. On a vu précédemment donc, que s'y rapportait à la fois le vocabulaire de la Thémis en tant qu'instance régulatrice et celui du Nomos, souvenez-vous de ce que nous avons vu dans la Théogonie d'Hésiode, en tant que répartition adéquate des manières d'être et d'agir parmi les dieux. Quant à Thesmos, que vous n'avez pas dans ce passage-ci, mais qui va arriver, il surgit non pas à Delphes, mais à Athènes, toujours dans la bouche écumante des Erinies qui y sont arrivées à la suite d'Oreste. Elle rappelle l'apanage qu'est pour elle la vengeance du sang versé et conclut comme suit, je cite, toujours dans la traduction de Bardelet et de Deforge. « Qui donc alors n'a respect ni peur parmi les mortels, entendant mon Thesmos, vous voyez le cluon Thesmon, du vers 391. Celui que la moire acheva et qui des dieux me fut donné pour finir. Je détiens un privilège antique et ce n'est pas mépris que je trouve quand même sous le sol j'ai place assignée et la ténèbre sans soleil. » Et donc vous voyez ici cette revendication du Geras Palaion qui ne doit pas laisser les Erinies sentimer. Hein, c'est ce que signifie l'adjectif Atimias au vers 394. Et vous voyez surgir aussi au vers 395 la notion de taxin ekousa qui renvoie à la répartition à laquelle Zeus a procédé dans les vers de la Théogonie que nous avons vu précédemment et que Solon utilisait aussi d'ailleurs dans les élégies que nous avons lues ensemble. Alors, le contexte dans lequel Thesmos figure, ici, est très proche de celui qui encadre la première occurrence de Nomos que nous venons de voir, puisqu'il s'agit à nouveau de la répartition des honneurs. Cette fois, il n'est plus fait référence au principe général évoqué par Nomos, mais à la part instituée pour les Erinies, telle que la moire, hein, Ici, vous avez une forme adjectivale, telle que la moire la leur a allouée et que les dieux ont sanctionné. Il s'agit d'entendre cette dévolution, hein, cluon tasmon, qui est donc conçue comme étant proclamée, dévolution de la place qui leur est assignée dans le cosmos avec les prérogatives qui la définissent. Et je pense ici évidemment à cette ambivalence que nous avons vue plusieurs fois pour le tesmos de l'ancien lit d'Ulysse et de Pénélope, qui est à la fois l'ancrage concret de l'union et l'institution d'un accord établi entre deux familles. Poursuivons dans la tragédie toujours. Face au dilemme que représente l'opposition du point de vue d'Apollon, qui estime qu'Oreste doit être absous, et celui des Érinies qui crie vengeance, Athéna choisit de fonder le tribunal de l'Aréopage en ces termes. Des hommes, je cite donc les vers 483-484, et j'ai repris le texte grec de l'édition Budé, le vers 483 est très discuté, mais heureusement c'est le 84 qui m'intéresse. Des hommes qui jugent les meurtres sous la clôture d'un serment, hein, vous voyez le champ sémantique d'Orcos ici, j'en choisirai, et un tesmos, moi je l'établirai pour toujours. Donc Bardolet et Deforge traduisent tesmos par loi, hein, là j'ai laissé tesmos, et une loi, moi je l'établirai pour toujours, traduisent-ils, tandis que Paul Mazon choisit de traduire par tribunal. Laissons la chose en suspens pour l'instant, en attendant la suite, et Athéna qui revient sur scène pour la discussion des points de vue en présence. Et je lis cette discussion. Donc nous sommes au vers 570-579. Athéna, tandis que se remplit ce conseil, le silence est notre secours, afin qu'apprenne mes tesmoi la cité tout entière. Matène, Tesmous et Mous. Et c'est pour la durée du temps, et que ceux-ci jugent par belle et bonne décision. Et puis le cœur, donc les Érinies, qui voient Apollon arriver, qui se dit mais qu'est-ce qu'il vient faire là, l'interpelle. Seigneur Apollon, règne là où toi-même possèdes, donc en clair retourne à Delphes. Quelle part as-tu en cette affaire? Dis-le. Et Apollon répond, d'abord c'est pour témoigner que je suis venu. Il est de par la loi mon suppliant. Alors, il est de par nomos, on va dire, plutôt, hein, mon suppliant. Bardolet et Deforge traduisent par loi. Donc, il est de par nomos, mon suppliant, cet homme-là. Dans ma demeure, il fut sur mon foyer à moi, et ce meurtre-là, moi, je l'en ai purifié. On voit se jouer ici la norme des suppliants, que nous avons déjà vu passer, que Mée, dans l'Odyssée, appelée la Thémis d'Exénoï, sous l'autorité de Zeus, et qui est ici de l'ordre du nomos. Donc vous voyez ce recouvrement que j'évoquais il y a un instant. Tandis que l'institution fondée par Athéna dans l'instant de la représentation est de l'ordre du tesmos, qu'il soit au singulier, comme dans le passage précédent, ou au pluriel, comme ici. Qu'il s'agisse de l'institution elle-même, se trouve corroboré par l'intervention d'Apollon à l'entame de son témoignage en faveur d'Oreste. Au vers 614-615, Apollon s'adresse au public, mais en fait il s'adresse dans la tragédie, il s'adresse aux jurés, aux dicastes du tribunal de l'Aréopage. « Je m'adresserai à vous, dit-il. » Ce grand esmos d'Athéna, avec droiture, étant devin, je ne mentirai point. Et donc, vous avez ici le ton d'Athénaïas Mégane, qui est en quelque sorte la position de Humas. Donc, vous êtes le esmos d'Athéna. Ce n'est donc pas la grande loi d'Athéna, comme on trouve dans certaines traductions, dont il est ici question, mais bien le tribunal en tant qu'institution fondée par elle et dont Apollon interpelle les membres. En revanche, avant le vote lui-même, Athéna reprend la parole et exhorte les Athéniens. Et vous voyez que cette tragédie est véritablement un tisse, en fait, le motif du tesmos et du nomos aussi, comme Antigone peut le faire, l'Antigone de Sophocle le fera autrement. Donc, vers 680-685, et puis quelques autres incursions dans les vers 690, Donc c'est Athéna qui parle. Veuillez écouter maintenant le thesmos. Et donc on retrouve ici, vous voyez, le verbe kluein avec le thesmos comme complément d'objet. Veuillez écouter maintenant le thesmos, Jean de Latique, qui tranchait les premiers arrêts du sang répandu. Il sera encore dans le reste du temps chez le peuple d'Égée et toujours jugera ce conseil. Cette butte d'Arès siège des Amazones, puisque l'aréopage est évidemment sur la colline d'Arès. Puis j'ai passé un passage. Elle sacrifiait Arès, donc il raconte, en fait elle raconte hein, l'origine de cette colline. Elle sacrifiait Arès de là sur le rocher et la butte au nom d'Arès, en ce lieu. Le respect de ceux de la ville et leur peur, qui est de même race, les empêcheront d'être injustes. À moins qu'eux-mêmes, les citoyens, et c'est le dernier vers, le 693, à moins qu'eux-mêmes, les citoyens, n'aient encore innové en leur loi, et vous avez ici Nomoi qui intervient. Donc, dans ce passage complexe, on retrouve, comme précédemment à propos du lot des Érinies, le verbe de l'écoute associé au thesmos. Comme la part des déesses se trouve proclamée et s'ancre dans un lieu donné, l'institution du tribunal de l'aréopage est proclamée par Athéna et se concrétise sur la colline d'Arès. Ensuite, vers dernier vers, donc le 693, ensuite, ce sont les nomoi en général dont la déesse critique la modification éventuelle et on constate alors que l'institution, une fois fondée, s'inscrit dans la durée et dans les nomoi du groupe, comme le laissait entendre une des inscriptions que nous avons analysées la semaine dernière. Alors, à ce stade de la tragédie, c'en est fini des occurrences de thesmos, les nomoi réapparaîtront, eux plutôt, en grec c'est masculin, les nomoi réapparaîtront dans les lamentations du cœur des Érinies de façon lancinante avant qu'elles n'acceptent la proposition d'Athéna. Nous sommes donc au vers 778, il y avait longtemps, 779. Io, dieu plus jeune, sur les anciennes lois, et vous avez ici Palaios Nomous. Vous descendez vos chevaux et de mes mains vous me les avez prises. Donc vous les piétinez, en fait, hein, c'est ça que ça veut dire. Vous me les avez prises. Mais moi, perdu d'honneur, qui est une très très belle traduction pour Athimos, perdu d'honneur, la porteuse de malheur, lourde rancune sur la terre d'ici. Et cette rancune, je vous le disais tout à l'heure, c'est la menace de la famine et de la guerre civile. Les anciens, donc, les anciens nomoi, les jeunes dieux dont Apollon les ont piétinés, rendant les antiques déesses atimoi. Le refrain reste le même que tout ce que nous avons vu jusqu'ici, et la notion de répartition reste sans doute perceptible dans l'emploi du mot. L'atteste, à mon sens, une réplique des mêmes Érinies, rappelant un peu avant dans la tragédie qu'il a déjà piétiner les hommages d'anciennes déesses. C'est un passage très intéressant. En fait, les Érinies disent, rappellent à Apollon qu'un jour, il a permis au roi thessalien Admète d'échapper à la mort, hein, puisque vous vous souvenez sans doute de cette histoire où Admète devait mourir et puis s'il trouvait quelqu'un pour le remplacer aux enfers, il pouvait échapper à la mort. Et cette entorse grave aux honneurs des Moirai, les Moires, les Pars, les déesses des Pars, n'a pu être obtenue par Apollon qu'en enivrant ces anciennes déesses. Et donc, les Érinies le rappellent dans la tragédie en disant « C'est toi qui as anéanti les anciens partages. » Et le mot est tout à fait intéressant, il est... C'est un terme évidemment lui aussi fondé sur Némein. C'est toi qui as anéanti les anciens partages quand ta ruse du vin trompa d'anciennes déesses. Et vous voyez, c'est particulièrement intéressant de voir les jeux à l'intérieur même, les jeux langagiers à l'intérieur même de la tragédie, parce qu'on avait déjà eu au vers 172. ces parts d'anciennes venues qu'il a anéanties. Et on retrouve ici le même verbe, hein, avec son préfixe. Et en fait, les divinités en question, ce sont les moires elles-mêmes. Donc vous avez ici un jeu de miroir qui est tout à fait passionnant. Bien. Le parcours dans le lexique contrasté des Euménides associe Thesmos, on vient de le voir, à la valeur que lui donne son étymologie, à savoir l'institution, en parole et en acte, d'une décision qui, dans le cadre de l'intrigue tragique, est évidemment divine. Elle s'inscrit dès lors sur l'arrière-plan du nomos, ou des nomoi régulateurs du cosmos, et des partages qui ont présidé à son équilibre. En reformulant le partage d'antique venue, comme disent Bartholet et Deforge, au profit d'une timée accordée aux Érinies dans le cadre de la cité. On voit bien que là, certes, la dianomée antique est revue et bafouée au sens que les Érinies donnent à ce terme, mais le partage va se réorganiser par cette timée qui est accordée aux anciennes déesses dans la cité d'Athènes. Alors, la tragédie d'Eschyle, vous l'aurez remarqué, du moins je l'espère, n'offre aucune prise à l'opposition entre thesmoi des dieux et nomoi des hommes. En ce milieu du Ve siècle, les deux termes continuent de désigner la même chose, mais sous des angles différents. Celui de l'institution pour le premier, celui de l'usage collectivement sanctionné pour l'autre, et pour les dieux comme pour les hommes. Thesmos prend progressivement, on l'a vu, une saveur archaïsante, susceptible de désigner d'antiques décisions normatives, que ce soit dans le monde des dieux ou dans le monde des hommes avec Dracon. On l'a vu dans le texte du Psephisma produit par Andecide, où les lois de Solon étaient des nomoi et celles de Dracon, plus anciennes, étaient des thesmoi. Mais c'est nomos qui s'imposera toujours davantage dans les différents registres de la norme, qu'elle soit collectivement assumée par une cité et consignée par écrit, ou qu'elle relève des us et coutumes traditionnellement partagés. En outre, la tragédie fait du conseil de l'Aréopage une création d'Athéna, le fruit, disais-je il y a un instant, d'une sorte de nouveau partage d'origine divine qui réorganise la dévolution des timailles. Les citoyens auront à juger les crimes de sang et les Érinies, devenues des déesses vénérables, des Semnae Theae, recevront les hommages de la cité, leur nouvelle part d'honneur. Les crimes de sang, dont on sait qu'ils étaient aussi la cible des dispositions prises par Dracon à la fin du VIIe siècle, seront désormais tranchés par le vote de ceux que la déesse appelle les Dicastai. Et se profile alors, en dépit du temps écoulé, le hieros kuklos des anciens de l'Iliade, qui émettent le plus droitement possible des dikai pour résoudre un eikos lié à un meurtre. On a bien sûr vu dans les Euménides le triomphe de la justice des hommes sur la justice des dieux. Je parle de la vision un peu canonique dont je vous parle depuis le début de ce cours. On a pu voir dans cette tragédie, effectivement, la trace du triomphe de la justice des hommes sur la justice des dieux, dont la poésie serait encore le témoin, la justice des dieux. J'ai toutefois beaucoup de mal à identifier une telle rupture dans l'ensemble des témoignages que je vous ai soumis. Et revenons pour cela, en conclusion de la conclusion, à la place des dieux dans la prise de décision des hommes. Et donc, la toute dernière partie, ce sera sur le rôle des dieux dans cette prise de décision. Dans l'Iliade, on l'a vu, on l'a encore revu tout à l'heure, l'autorité d'Agamemnon lui est conférée, je l'ai rappelé, par le sceptre et les thémistès de Zeus. Les conseils dispensés par le roi sont inspirés par l'exigence d'équilibre que traduit théogoniquement l'union de Zeus et de Thémis. Mais ni la parole du roi, je le répète, ni la parole du roi, ni ses conseils, ni les décisions qu'il prend ne sont assorties de la qualité de hieros. En revanche, le cercle des anciens, je viens de l'évoquer à nouveau, l'est bel et bien, hieros, kuklos, attestant qu'il s'y déroule quelque chose qui relève de la puissance divine, de la protection divine attendue au cœur de la gaune judiciaire. À l'instar de l'ère de battage, souvenez-vous, l'Aloé, L'aire de battage qui est Hiera et manifeste la protection de Déméter dans le processus en cours. Quant à la Hiérée Docis et Ziodique, le don qui manifeste la puissance des muses auprès des rois parmi les hommes, elle est associée aux sentences droites et à la capacité des décideurs à rendre à chacun ce qui lui revient, mais l'hypothèse des sentences retorses est bien là, elle aussi. Quand la cité crétoise de Dréros décide collectivement, alors à l'échelle sans doute réduite de l'accès d'un petit groupe aux décisions, hein, soyons lucides, mais quand cette cité s'affirme comme polis et décide collectivement de limiter l'itération de la charge de cosmos, la décision est gravée sur le temple d'Apollon, à savoir une construction forcément collective, qui est une autre manière monumentale d'affirmer ce qu'il a plu à la cité de réaliser collectivement. Ce double choix, la construction d'un temple, fut-il encore modeste à ce moment-là, hein, c'est pas le Parthénon, la construction d'un temple et l'affichage sur ses murs d'une autre décision collective, montre l'imbrication étroite des agents divins et humains dans la construction de l'identité du groupe. Il a plu à la polis, et la polis prend en charge l'intérêt des dieux, comme les dieux protègent la polis. C'est pourquoi elle peut être poétiquement qualifiée de Hiera. Quand, un siècle et demi plus tard, Solon chante en vers sa propre action politique, le nomia de la cité est au cœur de ses intentions et passe par la rédaction de Thesmoi, des décisions instituées, fondées, non pas par l'intermédiaire de Zeus et de sa fille divine, gardienne de la cité, mais sous leur protection. L'action divine attendue ne passe plus par la voie poétique de l'inspiration du roi des dieux au roi des hommes par le biais des muses. Désormais assumée par une collectivité ou bien l'un de ses membres choisis, la décision n'en est pas laïcisée pour autant. Elle est assortie encore et toujours d'une protection divine qui est requise selon des modalités variées. Par un affichage, comme celui des temples crétois d'Apollon, que je viens de rappeler, ou dans le cercle de Zeus Agoraios à Érythrée, ou sur l'acropole d'Athènes, pour les Thesmoi de Dracon et de Solon, avant de descendre dans la ville basse, dans le portique royal, au cours du Ve siècle. C'est un choix d'une intensité plus élevée encore, auquel se résout la cité locrienne, qui émet à la fin du VIe siècle un thesmos sur la terre, dont nous avons parlé la semaine dernière. Et je vous remets le texte de la fin de cette inscription sous les yeux. Hein, que le présent thesmos soit la propriété sacrée d'Apollon Pythios et de ceux qui partagent son temple. Quiconque transgressera ces dispositions sera voué à l'anéantissement, lui et sa famille et ses biens. À celui qui agit avec piété, que le dieu soit favorable. Le dieu est le partenaire de la décision prise par la collectivité. J'ai traduit ici Yaros associé à Thetmos par propriété sacrée pour faire droit à l'imbrication d'intérêts qui se fait jour entre les hommes et les dieux dans cette opération. Le choix d'associer plus étroitement encore l'institution en question à l'attention du dieu atteste aussi que les normes socialement constituées dérivent ultimement de Zeus, Apollon Pythios étant ici le dieu oraculaire, vecteur de la boulet de son père. Alors, évidemment, le lien, l'intensité est relative hein, d'un point de vue à l'autre, mais on ne peut pas penser cela, ces éléments indépendamment les uns des autres. Dès lors qu'une procédure normatif s'institue collectivement, Zeus n'est jamais très loin. Il reste la source de la justice humaine, entendue au sens large de la reconnaissance et du respect des droits de chacun. La répartition des timailles entre les dieux et entre les hommes et les dieux, donc entre les dieux eux-mêmes et entre les hommes et les dieux, reste le modèle explicatif le plus prégnant de ces processus. C'est sur cet arrière-plan que se dessine l'eunomia archaïque, dont on a pu écrire qu'elle était une ambition oligarchique en regard de l'isonomia, cette autre notion dont je ne vous ai pas parlé, une isonomia qui serait démocratique. Mais tant l'eunomia que l'isonomia sont des concepts complexes dont nous aurons à rendre compte dans la suite de notre enquête sémantique. En effet, c'est de répartition qu'il est aussi question, dans l'usage du terme isonomia à la fin du VIe siècle, et nous n'en avons pas fini avec cette notion de répartition. Nous n'en avons pas terminé non plus avec les questions de régulation et de normes qui lui sont liées. Alors que la thémis reflue dans les usages de la prose, mais nous avons vu que la thémis restait néanmoins présente, mais elle reflue dans les usages, d'autres champs sémantiques fleurissent et nous permettront d'affiner la compréhension de la place des dieux dans les cités classiques cette fois. Ce sera le cas de l'eusébeia, on a vu hein, première occurrence du verbe sébein dans une inscription, et surtout l'osiotès, le fait d'être osios, dont la traduction par piété, hein, que ce soit osiotès, que l'on traduit parfois par piété, ne circonscrit que bien imparfaitement la richesse de ses implications. Mais le traitement de ces dossiers-là, ce sera pour l'an prochain, et j'espère revoir enfin bon nombre d'entre vous en chair et en os dans cet amphithéâtre du Collège de France. Je vous remercie pour votre attention.